un journal de la vie de cet ancien serviteur du Christ, John Gratton suite, le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué, pour renvoi aux Écritures ou pour des détails dans les écrits. Un petit traité concernant la lumière du Christ, auquel est ajouté quelque chose concernant la mort et les souffrances du Christ. Il y a quelque temps, je conversais avec une personne, à qui je veux beaucoup de bien, au sujet de questions de la plus grande importance, et il me dit qu'ils avaient entendu dire que nous les premiers Quakers prêchions une nouvelle lumière. Cela m'attrista, et je trouvais étrange que nous ne fussions pas mieux connus d'une personne d'une telle considération et si proche voisine. C'est pourquoi, afin de nous laver de ce scandale, et d'informer les enquêteurs sobres, modérés et bien disposés, et de satisfaire nos ennemis qui nous accusent faussement, et surtout pour la propagation de la sainte lumière et de la vérité, que l'homme de bien priait autrefois Dieu d'envoyer, PS 43.3, ces quelques lignes y sont écrites, avec le désir que Dieu, dans sa grande miséricorde, les... Je rends témoignage à tous que nous ne croyons en aucune autre lumière et n'en prêchons aucune autre, sinon cette vraie lumière que Jean prêcha et dont il rendit témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres ne l'ont pas comprise. C'est de cette même lumière que nous rendons témoignage, la lumière de la vie éternelle qui était au commencement, et ce n'est donc pas une doctrine nouvelle ni une lumière nouvelle. L'apôtre Jean continue et nous dit de quoi Dieu envoya Jean-Baptiste rendre témoignage. Il y eut un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. C'était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Voici deux Jean, l'un le disciple bien-aimé, l'autre Jean-Baptiste, un prophète, et tous deux déclarent la même lumière, celle dont les Quakers, méprisés et faussement accusés, rendent aujourd'hui témoignage. Nous pouvons bien être hardis pour en témoigner, car nous savons que c'est la vraie lumière, celle-là même que ces hommes prêchèrent en leur temps, et qu'elle nous a éclairés et nous a montré tout ce que nous avons jamais fait, et que c'est la miséricorde du Seigneur que nous voyons ce jour, qu'Abraham se réjouit de voir, et qu'il vit, et dont il fut heureux. Beaucoup de prophètes en rendirent témoignage, comme on peut le montrer ici, et Christ lui-même en parle très pleinement et clairement en divers endroits. Mais d'abord, remarquons les prophètes. David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, la force de ma vie, et, auprès de toi est la source de la lumière, par ta lumière nous voyons la lumière. » Quelle preuve claire voici, il dit ce qu'est la lumière, c'est le Seigneur, son salut, sa vie et sa force, dans la lumière de qui nous voyons la lumière, et nous savons qu'elle vient de la source de vie. Et PS 43.3, il prie « Ô, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise, qu'elle me mène à ta montagne sainte. » Qu'y a-t-il de plus désirable ou de plus profitable que ce qui conduit et mène l'âme à la montagne sainte et au tabernacle de Dieu? David ne méprisait pas la lumière, mais priait Dieu de l'envoyer, pour le conduire et le guider vers sa montagne sainte, il l'aimait, et ainsi font tous ceux qui ont le cœur droit. Le Seigneur est Dieu, et ne change pas, le même aujourd'hui, hier et à jamais, et ceux qui sont éclairés par les illuminations du Seigneur en ce jour savent que leur nature terrestre a été amenée à trembler, pourtant l'âme sincère s'est réjouie en tremblant, et a baisé le Fils, et s'est réjoui de voir la lumière qui est semée pour le juste, et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Comme Abraham, ainsi tous ses enfants se réjouissent de voir la lumière du Seigneur. Mais certains disent, « Comment savons-nous que David parle de la lumière au-dedans ? » Réponse, « Ses paroles sont pleines et claires, et s'accordent avec celles de Jean. Jean dit que Christ est la vraie lumière qui éclaire tout homme, et qu'en lui est la vie, et que la vie est la lumière des hommes. » David dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, ainsi le Seigneur de David est sa lumière et son salut. » Et Jean dit, « Elle éclaire tout homme venant dans le monde, ainsi s'y manifeste l'amour universel de Dieu et sa bonne volonté envers tous les hommes. » Comme il est dit ailleurs, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, cette vie même qui est la lumière des hommes. » Ainsi le Seigneur, dans sa miséricorde, fait briller son soleil sur tous et donne lumière au monde entier. Il y a des parties de la terre qui ont vu la vraie lumière de vie, et ont aussi tremblé, et qui ne sont pas appelées Quakers parce que, bien qu'elles aient vu et senti, goûté et touché la lumière ou la parole de Dieu, elles se sont pourtant rebellées contre elle. Ceux qui se rebellent contre la lumière ne connaissent pas ses voies, ni ne demeurent dans ses sentiers. Et il y en a de cette sorte qui marchent dans la forme, mais en nient la puissance, et font que la voix de la vérité est mal parlée. Il y en a qui, bien que la lumière brille en eux, et leur fasse voir leur mauvaise voie, et les reprennent, sont pourtant tellement épris du monde et de ses maux, qu'ils se détournent du Seigneur, et de sa lumière, de sa grâce et de son Saint-Esprit qui lutte avec eux, ainsi ils demeurent sous la culpabilité et la condamnation. Leur propre cœur les condamne, leur cœur et leur conscience sont souillés, ils le voient et le confessent mais ne veulent pas abandonner le péché, et par conséquent ils demeurent sous la condamnation. Comme en Jean 3, 19-20, et ce qui cause la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Ceux-ci refusent de venir à la lumière, parce qu'ils n'aiment pas être repris, troublés ou inquiétés dans leurs esprits. Ils prennent plaisir au péché, et à vivre à l'aise dans l'iniquité, et n'aiment pas être séparés du monde ou de ses mauvaises voies. C'est pourquoi ils aiment les ténèbres plutôt que la lumière. Or, il est clair que si un jour de visitation n'était pas venu, et si le soleil de justice ne s'était pas levé et n'avait pas brillé sur le monde, et rendu manifeste toutes les choses qui sont reprises, alors on aurait pu alléguer quelque excuse. Mais sur qui sa lumière n'a-t-elle pas brillé, qui ne le sait pas? Le Seigneur appelle à la sainteté, et fait voir à tous les hommes ce qui est mal et ce qui est bien, afin qu'ils aiment le bien et s'y attachent, et se détournent du mal, et fuient toute apparence de celui-ci. Cessez donc de faire le mal, apprenez à faire le bien, et trouvez miséricorde auprès du Seigneur. Christ a dit, « Si je n'étais pas venu, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont point d'excuse pour leur péché. Et encore, si vous étiez aveugle, vous n'auriez point de péché, mais maintenant vous dites, « Nous voyons, c'est pourquoi votre péché demeure. » S'il ne faisait pas jour, le monde serait plus excusable, mais puisque c'est le jour et que la vraie lumière brille maintenant, cet homme donc qui court dans la fange et la saleté du péché, et le voit et pourtant le fait, c'est son propre fait, et il doit porter son propre fardeau, car il fait ce qu'il sait qu'il ne doit pas faire et laisse non fait ce qu'il sait qu'il doit faire. La lumière brille, et avec la lumière il voit qu'il en est ainsi, et il est donc justement condamné en lui-même parce qu'il connaît la volonté de Dieu mais ne la fait pas. Dieu est juste dans tous ses jugements et droit dans toutes ses voies. Notre Seigneur dit encore, « Celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » C'est là l'homme qui aime la lumière, et ne veut pas s'arrêter avant d'être approuvé du Seigneur, et qui rend grâce à Dieu de lui avoir montré la lumière, qui nous a rendus capables de dire, « Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. » Oh, disait cet homme, « Vraiment, la lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. » Ô maison de Jacob, venez, et marchons dans la lumière du Seigneur. Car la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, et s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. C'est pourquoi confions-nous dans le Seigneur, qui choisira encore Jacob, pousse des cris et des chants, habitante de Sion, car grand est le Saint d'Israël au milieu de toi. Mais malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres. Ce prophète évangélique Isaïe déclare avec force la glorieuse lumière, Christ Jésus, Isaïe 9:2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi. N'était-ce pas notre état, nous qui sommes des gentils, et maintenant que la lumière de Sion est venue, pourquoi ne devrait-elle pas en rendre témoignage? Car la lumière d'Israël sera un feu, et son sein une flamme, et elle brûlera, et, moi, l'Éternel, je te donnerai pour alliance du peuple, pour lumière des gentils, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de la maison de détention ceux qui sont assis dans les ténèbres. Je te donnerai aussi pour lumière des gentils, afin que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Lève-toi et resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Et les nations viendront à ta lumière, et les rois à l'éclat de ton lever. Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, et la lune ne t'éclairera plus de sa clarté, mais le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus, car le Seigneur sera ta lumière éternelle, et les jours de ton deuil prendront fin. Voici un témoignage à la lumière des gentils, la lumière de Sion, la lumière d'Israël. C'est cette vraie lumière à laquelle nous désirons que tous viennent maintenant, grands et petits, riches et pauvres, car elle est venue, béni soit le Seigneur notre Dieu à jamais. Je passe au témoignage du Sauveur en Jean 8, 12. Alors Jésus leur parla, disant, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si les gens voulaient le suivre, et non les traditions des hommes, les rudiments du monde, les commandements et les doctrines des hommes, car tous ceux qui font ainsi vivent dans les ténèbres, et haïssent la lumière, en disent du mal, parce que leurs œuvres sont reprises par elles, et manifestées comme pécheresses et injustes, et ils sont ennemis de Christ. Il dit encore, « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, et il a promis d'être avec son peuple jusqu'à la fin du monde, lisez Matthieu 28. Alors Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps avec vous, marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Et je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. N'y a-t-il pas matière à grand étonnement que des hommes qui reconnaissent les Écritures nous blâment de prêcher Christ, la lumière du monde, la vraie lumière, qui brille maintenant dans les cœurs des hommes, et nous disent que la lumière est la conscience, certains disent que c'est la lumière de la nature, et d'autres l'appellent l'idole des Quakers. Mais maintenant, lecteur, tu peux voir ce que Christ a dit que c'était, il a dit, « Je suis la lumière du monde ». Jean a dit, « Il est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde », et le prophète dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, il est donné pour lumière aux gentils, et pour salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Zacharie dit, parlant de son fils Jean-Baptiste, « Et toi, enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, par la rémission de leurs péchés grâce aux tendres compassions de notre Dieu, par lesquelles l'astre d'en haut nous a visités, pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pieds dans le chemin de la paix. Le bon vieux Siméon loua Dieu, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour éclairer les gentils, et la gloire de ton peuple Israël. Ainsi tous ceux-ci ont prêché Christ, la vraie lumière, et ce n'est donc pas une doctrine nouvelle ni une nouvelle lumière, comme certains disent que nous prêchons, mais la même dont les Écritures rendent un témoignage si ample et si clair. Notre Seigneur dit à Paul, « Je suis Jésus que tu persécutes, je te suis apparu dans ce but pour faire de toi un ministre et un témoin, tant des choses que tu as vues que de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, te délivrant du peuple et des gentils, vers lesquels je t'envoie maintenant pour ouvrir leurs yeux et les tourner des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Or ici il est clair que Paul fut envoyé pour les tourner des ténèbres à la lumière. Pouvait-il le faire sans la prêcher? Non, il obéit au commandement du Seigneur, et Paul était-il un Quake, ou devons-nous, nous qu'on appelle Quakers, être blâmés de prêcher cette doctrine primitive et ancienne? Assurément non, car Dieu nous a appelés à le faire, et nous ne craignons pas l'homme qui s'oppose à Dieu, à sa vérité et à son peuple, pas plus que Paul, contre qui les grands prêtres et les chefs furent profondément offensés. Pourtant il rendait témoignage aux petits et aux grands, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse avaient dit devoir arriver, que le Christ devait souffrir, et qu'étant le premier à ressusciter d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux gentils. Mais certains peuvent encore dire, « Cette lumière est-elle prêchée quelque part comme étant au-dedans des hommes ?» Oui, cet apôtre a dit, « Car Dieu, qui a commandé que la lumière resplendît du sein des ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. » Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu, et non de nous. Ici l'apôtre prêche la lumière qui brille dans nos cœurs. C'est donc la lumière au-dedans, et Dieu, dans sa miséricorde, fait qu'il en soit ainsi, et celui qui ne se tourne pas au-dedans pour contempler son éclat, mais regarde fixement aux choses extérieures, est encore dans les ténèbres. Bien que la lumière brille dans son cœur obscur, il ne la connaît pas, ne croit pas en la lumière, ne la suit pas, et par conséquent il demeure dans les ténèbres, et aime y demeurer. Ceux-ci aiment le monde et son amitié, mais l'amour de Dieu n'est pas en eux. Mais les enfants de la lumière sont dits être une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin qu'ils publient les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, eux qui autrefois n'étaient pas un peuple, mais qui maintenant sont le peuple de Dieu. Eux qui n'avaient pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant ont obtenu miséricorde, 1 Pie 2, 9-10. Jean, le disciple bien-aimé de Christ, dans sa première épître, a dit ainsi, « Voici donc le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons que nous avons communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Encore, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres passent, et la vraie lumière brille déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Allez éprouver toutes les églises et voyez où se trouve cet amour, et que cette église soit manifestée qui demeure dans la lumière. » Dans l'Apocalypse, le même apôtre dit, « Et l'un des sept anges vint à moi et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Et il continue à parler d'elle, jusqu'à ce qu'ils disent, « Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et les nations sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Ses portes ne seront point fermées le jour, car là il n'y aura point de nuit, et l'on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. N'y a-t-il pas ici une déclaration claire de l'état de la vraie Église de Christ, et de sa lumière que le Seigneur Dieu lui donne, et que c'est entièrement ce à quoi le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau la conduisent gratuitement, et ce qu'il est pour elle, de sorte qu'il n'y a ici rien de l'homme, ni de la sagesse de l'homme, ni d'adresse, ni de force ou de puissance, ni d'aucune créature quelle qu'elle soit. Ce n'est rien de ce genre qui puisse donner à l'âme l'acceptation auprès du Seigneur. Il prépare son Église et son peuple, et la rend prête pour lui-même, tandis qu'il la rassemble en lui, et la place dans sa demeure sainte, où rien d'impur ne peut entrer. C'est la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la femme libre, la mère de nous tous, qui sommes des enfants nouveau-nés, nés d'une semence incorruptible par la parole de Dieu, qui vit et demeure à jamais. Or il est clair que cette vraie Église de Christ, étant appelée l'épouse, la femme de l'agneau, signifie qu'elle est réellement fiancée ou unie au Seigneur dans son propre amour, sa vie, sa lumière, sa puissance et son esprit, et qu'elle aime et jouit de sa présence, entend sa voix, est vraiment sensible à son amour, connaît son nom comme un parfum répandu, et aussi comme une tour forte, se rassemble en ce nom, y est sauvée et va à Dieu par lui. Et comme elle y est rafraîchie, et dans un vrai repos et une vraie paix avec le Seigneur en lui, qu'il a réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, et l'a sauvée par sa vie. Ainsi il est clair ici que le Seigneur est pour son peuple un époux, un père, une source de vie, de lumière et d'amour, de sagesse, de connaissance, d'intelligence et de toutes bonnes choses. Et le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Et ils vivront dans sa vie, et marcheront dans sa lumière, toutes les nations qui sont sauvées, ou les sauvés de toutes les nations marcheront dans la lumière du Seigneur Dieu et de l'agneau. C'est le sentier du juste, une lumière resplendissante, qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Mais certains diront peut-être que c'est l'état de l'Église au ciel, non sur la terre. Réponse : il est clair que le Seigneur montra à Jean des choses qui doivent arriver bientôt ici sur la terre, et que cette vraie Église descendit de Dieu du ciel, préparée comme une épouse ornée pour son mari, et ensuite il est dit, « Et j'entendis une grande voix venant du ciel, disant, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. » Ainsi la vraie Église est née de Dieu, née de l'Esprit, et elle est en Dieu le Père et en le Seigneur Jésus-Christ, et a des lieux célestes en Christ où s'asseoir, elle est rachetée de la terre, baptisée en Christ, la revêtue vit dans l'Esprit et y marche, elle est conduite, guidée, préservée, consolée, et rendue capable par lui et en lui d'adorer Dieu correctement, de prier correctement, de prêcher correctement et de louer correctement. Ainsi tout ce qu'elle possède est descendu de Dieu du ciel, tout don bon et parfait. Toutes ses sources vives, toute sa force, sa puissance et sa capacité, toute sa foi, son espérance, sa vie, sa lumière, sa sagesse, sa connaissance, sa joie, son grand réconfort et sa consolation, tout son amour et sa beauté, sa grâce, sa convenance, oui, tout ce qu'elle possède lui est donné gratuitement par Dieu et descend de Dieu du ciel. Elle est au Seigneur, et n'est rien d'autre que ce qu'elle est en lui, ni ne peut rien faire sans lui, qui est sa lumière et son salut, sa part, son trésor, son bien-aimé, et elle est à lui. Sa gloire est dans le Seigneur, sa joie dans le Dieu de son salut. Elle s'appuie sur lui, dépend de lui et se confie au Seigneur seul, qui est son aide, son libérateur, son rédempteur, son sanctificateur, son sauveur et son protecteur, et tout ce qu'elle a et ce dont elle a besoin. Il est aussi son rocher, sa forteresse, son bouclier, son pavois, sa tour forte, son armure, son défenseur et son habitation de sûreté. Bref, Dieu est tout en tout pour ses vrais enfants et son peuple, et par-dessus tout digne de louange, d'honneur, de gloire, d'adoration, d'action de grâce et de renommée éternelle, car cela ne revient qu'à lui, qui est Seigneur des seigneurs et roi des rois sur tous, à celui qui est assis sur le trône au siècle des siècles. Amen. J'espère qu'il est très clair, par l'Écriture, d'une manière abondante, qu'il n'est pas une lumière nouvelle ni une doctrine nouvelle de prêcher Christ, la lumière du monde, la lumière des hommes, la lumière au-dedans qui éclaire l'âme et lui fait voir toutes les choses qui sont reprises, et rend toutes choses manifestes, comme l'apôtre l'affirme, toutes les choses qui sont reprises sont manifestées par la lumière, car tout ce qui rend manifeste est lumière. Suis ce conseil, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Veillez donc à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Lorsque les hommes, par la lumière, viennent à voir toutes les choses qui sont reprises, et se détournent de ces choses, et se livrent à obéir à la volonté de Dieu, bien qu'ils aient longtemps été morts dans le péché et dans les œuvres mortes, ils s'éveillent maintenant de leur état endormi, sûr et mort, se levant et fuyant cet état vers Christ. Alors il donne davantage de lumière, et leur donne de connaître sa doctrine et les mystères de son royaume, quand ils se livrent à faire sa volonté. Alors à ceux qui furent quelque temps dans les ténèbres et très ignorants, il est donné de connaître les choses qui appartiennent à leur paix, ils deviennent lumière ou éclairés dans le Seigneur, et alors ils marchent comme des enfants de lumière et portent les fruits de l'Esprit en toute justice, bonté et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur, n'ayant aucune communion avec les œuvres stériles des ténèbres, mais les reprenant plus tôt, ils sont ainsi devenus un avec celui qui les reprenait lorsqu'ils étaient dans les ténèbres. C'est pourquoi, chers amis et frères bien-aimés, qui faites profession de cette sainte lumière et de ce jour du Seigneur, prenez garde de marcher en elle, afin de ne donner aucune occasion de chute. Car l'ennemi guette l'occasion, et bien qu'il n'en puisse trouver aucune dans le Seigneur notre lumière et notre chef législateur, et tout en tout, il s'efforce pourtant de le déshonorer par nous, et par toute tâche ou toute insuffisance en nous. Ceux qui se détournent du Seigneur et deviennent méchants, la lumière des méchants s'éteindra, et l'étincelle de son feu ne brillera pas. La lumière s'obscurcira dans sa tente, sa lampe s'éteindra. Il est tristement constaté, même en ces jours, que des hommes peuvent être éclairés et goûter aux dons célestes, et devenir participants du Saint-Esprit, et goûter la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, et pourtant tomber, et crucifier pour eux-mêmes de nouveau le Fils de Dieu, et l'exposer à l'opprobre, ou à être ouvertement reprochés par des hommes méchants. Comme Pierre l'a dit, il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des hérésies pernicieuses, allant jusqu'à renier le Seigneur astérisque qui les a rachetés, et attirant sur eux une ruine soudaine. Et beaucoup suivront leur voie de perdition, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles feintes. Ils ont le cœur exercé aux pratiques de la cupidité, enfants maudits, qui ont abandonné le droit chemin et se sont égarés suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'injustice. Mais il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice qu'après l'avoir connue de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé selon le vrai proverbe, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée à se vautrer dans la boue. J'en parle aussi de ceci, et mes très chers amis, que notre souci soit de demeurer dans la vigne, en participant à sa sève, à sa vertu et à sa graisse, afin que nous portions beaucoup de fruits à la gloire de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Astérisque renier le Seigneur, c'est marcher à l'encontre de la sainteté, de la justice et de la vérité. Renier le Seigneur ne consiste pas seulement à dire que Jésus n'est pas le Seigneur. On renie le Seigneur comme étant son Seigneur, gouvernant ses paroles et ses actes, par la preuve de ses paroles et de ses actes impies. Marchons dans la lumière, afin que nous ayons communion avec Dieu et les uns avec les autres, et que nous connaissions le sang de Christ comme nous purifiant de tout péché. Alors, dans la lumière, nous aimerons comme des frères, oui, nous aimerons tous les hommes, même les ennemis, et nous aurons à cœur la prospérité de la sainte lumière et de la vérité de Dieu, afin que beaucoup viennent à sa connaissance et soient sauvés. Vous tous, gens sobres de toutes sortes, qui pourriez voir ces lignes, c'est à vous que l'amour de Dieu parvient, et je le sens en mon cœur en ce moment. Permettez-moi de vous supplier de vous tourner en vos pensées vers cette pure lumière qui brille dans vos cœurs, pour vous faire discerner toutes choses, et distinguer entre ce qui est précieux et ce qui est vil, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que cela soit votre choix, car cela vient de Dieu, et survivra à tous ceux qui s'y opposent, et que les grands cris et les faux accusateurs de la vérité de Dieu et de son peuple ne vous amènent pas à rejeter la lumière et à embrasser les ténèbres, à choisir le mal et à refuser le bien. Mais prenez garde à cette grâce ou à ce don qui apparaît en vous, car il n'y a point de fraude en lui, et vous ne pouvez pas dire qu'il ait jamais consenti au mal, mais il l'a repris. C'est celui que personne ne peut justement accuser d'aucun mal, écoutez-le donc car Dieu parle par lui, son amour est grand envers tous, il est mort pour tous, a goûté la mort pour chaque homme, et éclaire tout homme venant dans le monde, venez et marchez en lui à jamais, amen. John Gratton concernant la mort et les souffrances du Christ. Mais certains sont prêts à objecter, et disent, vous, Quakers, vous prêchez puissamment la lumière au-dedans, mais vous dites peu de la mort et des souffrances du Christ hors des portes de Jérusalem. Réponse : nous avons beaucoup d'accusateurs qui disent contre nous toutes sortes de mal, ce que nous supportons patiemment, sachant que c'est à cause de celui qui a souffert pour nous, qui est devenu non seulement notre lumière, mais aussi notre salut, tandis que nous demeurons en lui, comme il nous l'a commandé. Et nous déclarons que, de même que par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour chaque homme, de même chaque homme en reçoit ce bénéfice, il peut maintenant venir à lui, le recevoir, et en lui recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il vint dans le monde, il y eut une grande joie, car l'ange qui apparut aux bergers leur dit, « Ne craignez point, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie, qui sera pour tout le peuple. » Et il y avait avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix, bonne volonté envers les hommes. Voici l'amour universel, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ainsi le monde entier est mis en capacité, par la mort et les souffrances de Christ, de venir à lui, et celui qui vient à Christ, il ne le mettra point dehors, car Dieu ne fait point exception de personne, mais dans toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Ainsi nous disons que c'est Christ qui a souffert pour nous, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais vivifié par l'Esprit. Oui, il a donné sa vie en rançon pour tous, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pendant que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, et a purifié nos péchés par lui-même. Puisque donc les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a participé de la même manière, afin que, par la mort, il détruisît celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Je déclare maintenant ceci, nous confessons la mort et les souffrances de Christ selon les Saintes Écritures, et lui seul, qui a souffert hors des portes de Jérusalem, a été notre artisan de paix, et il est maintenant venu par sa lumière et son esprit, nous donner la connaissance de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous, de sorte que, dans sa lumière nous le voyons, lui qui est notre lumière et notre salut. Isaïe a dit, il a porté nos douleurs et s'est chargé de nos souffrances, qui étaient les tristes effets de nos péchés, de sorte que maintenant la rémission des péchés passés est librement prêchée à tous les hommes par lui, et toute l'humanité est invitée à venir à lui, et tous les bouts de la terre à regarder à lui et à être sauvés. Après que le prophète Isaïe a longuement parlé de sa mort et de ses souffrances, et du grand amour et de la miséricorde de Dieu qui se répandent par Christ sur tous, et de la manière dont il élargit sa demeure, il montre que les gentils, qui avaient été stériles et désolés, viendraient à engendrer plus d'enfants que la femme mariée, et qu'ils s'étendraient à droite et à gauche, et que leur Créateur serait leur époux et leur Rédempteur. Lisez Isaïe 54, plein de promesses précieuses, « Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel, et grande sera la paix de tes enfants, tu seras établi dans la justice, tu seras loin de l'oppression. » Et Isaïe 55, oh. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, certes tu appelleras une nation que tu ne connaissais pas, et des nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu. » Ainsi il ressort clairement du prophète, dans ces trois chapitres, premièrement, que nous sommes tous comme des brebis perdues, égarées. Deuxièmement, ce que Christ a souffert pour nous, et comment il est apparu dans le monde, et a été rejeté et méprisé des hommes. Troisièmement, comment, après sa mort et ses souffrances, la bonne volonté de Dieu est abondamment vue se répandre vers tous les peuples, et une invitation est donnée à tous ceux qui ont soif à venir aux eaux comme aussi en Jean 7:37-39. Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il disait cela de l'Esprit que ceux qui croiraient en lui devaient recevoir, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été. Mais après que notre Seigneur Jésus-Christ eut souffert, ressuscité des morts et été élevé bien au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, comme dit l'apôtre, il envoya le Saint-Esprit. Alors la source s'ouvrit plus abondamment, et l'on s'adressa à des hommes de toutes nations, qui entendirent, chacun dans sa propre langue, les merveilles de Dieu déclarées. Alors le jour de la délivrance se leva, et l'astre d'en haut visita les enfants des hommes. Le soleil de justice s'était levé avec la guérison dans ses ailes, et sa lumière jaillit dans l'obscurité. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres virent la lumière de la vie, et la vie éternelle s'éleva au-dessus de la mort, de l'enfer et du tombeau, brillant dans les cœurs et les âmes des hommes. Et l'Esprit fut répandu sur toute chair, selon la promesse du Seigneur, Joël 2:28-29. Et quiconque le désire est maintenant, par la mort et les souffrances de Christ, mis en capacité de salut, et ce bénéfice vient à tous, qu'ils l'acceptent ou non. L'Esprit de Dieu est répandu sur tous, la source d'eau vive est ouverte à tous, la grâce de Dieu qui apporte le salut apparaît à tous, Tite 11:12. Et le jour du salut a jailli, et la vraie lumière brille maintenant vers tous, même vers ceux qui étaient assis dans les ténèbres et ne voyaient aucune lumière, et dans la région et l'ombre de la mort. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens » et que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Ainsi l'invitation s'adresse à tous, et quiconque le désire peut recevoir ou prendre gratuitement de la source d'eau vive, sans argent ni prix, ni rien pour la mériter ou l'acheter. Car le pardon et la rémission des péchés passés sont librement prêchés à tous en Christ, et pour l'amour de celui qui est mort pour eux et les a achetés de son précieux sang. Mais ce n'est pas là tout le bénéfice qui vient aux pauvres âmes par sa mort et ses souffrances, car maintenant la vraie lumière brille, les choses cachées des ténèbres sont manifestées, reprises, jugées et condamnées. Car il est aussi donné pour témoin au peuple, et il rend témoignage en leur faveur, s'ils le suivent et vivent pour celui qui est mort pour eux. Mais s'ils vivent encore pour eux-mêmes, et suivent les desseins et les désirs de leur propre cœur, et font les choses qu'ils ne devraient pas faire, et laissent non faites celles qu'ils devraient faire, alors ils témoignent contre eux, les jugent et les condamnent, pour leur mauvaise voix, leurs paroles, etc. Permettez-moi de parler librement, et de dire que lorsque nous étions ennemis, nous étions par la mort de Christ mis en capacité de nous détourner de ce qui nous rendait tel, à savoir le péché et d'être unis au Seigneur, qui se tenait prêt à nous recevoir en celui qui est mort pour nous, et qui ne nous imputerait pas nos offenses parce qu'il a souffert pour nous, lui qui maintenant nous unit et nous réconcilie avec Dieu, et par sa vie nous en venons à être vivifiés et relevés de la mort à la vie. Et nous voyons, dans sa lumière, que à mesure que nous venons à lui, le recevons et le suivons, nous sentons sa vie et sa puissance nous unir de plus en plus à Dieu, le donateur de ce don ineffable, et il nous manifeste son amour, lui qui est en Christ nous réconciliant avec lui-même. Et plus nous sommes rassemblés dans la vie de celui-ci, plus Dieu est avec nous, et sa paix est attestée en nous, à sa louange et à sa gloire, à jamais. Amen. Ainsi en Christ, nous recueillons tous les bienfaits de sa mort, de ses souffrances, de sa résurrection, de son ascension et de sa médiation, lui qui donne la paix à nos âmes, et qui est notre lumière, notre guide, notre maître, notre commandant, notre roi, notre législateur, notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Venez donc à Christ, croyez en lui, suivez-le, et vous ne demeurerez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de la vie. Le Seigneur se plaignait autrefois des Juifs que, quoiqu'ils sondassent les Écritures et pensassent y avoir la vie éternelle, pourtant ils ne voulaient pas venir à lui afin d'avoir la vie. C'est encore la cause de toute cette mort et de ces ténèbres où les gens sont couchés. Ils ne veulent pas venir à lui, ils ne l'aiment pas, ni son apparition, ni la lumière qui rend manifeste toutes choses et reprend celles qui sont réprouvées. Combien de fois, disait Christ, ai-je voulu vous rassembler, mais vous n'avez pas voulu venir ? Il est ici évident que Dieu veut que tous soient sauvés, mais ils ne veulent pas venir à lui, ni être rassemblés par lui. Oh ! Venez donc et marchons dans la lumière du Seigneur. Marchons honnêtement comme en plein jour, afin que notre sanctification soit complète, car c'est Christ qui sanctifie, lave et purifie par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Car s'il ne nous lave pas, nous n'avons point de part avec lui. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Ainsi il est clair qu'il nous faut venir au Seigneur Jésus-Christ, et nous abandonner pour être sauvés par lui, et en un mot, le recevoir, lui qui a fait tout cela pour nous, afin d'être tout pour nous, et que nous soyons ce que nous sommes en lui, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. C'est là l'unique chose nécessaire, la bonne part que Marie a choisie, la perle de grand prix, meilleure que le monde entier. Que nul donc ne se repose sur des notions et une profession vaine, des formes mortes, des opinions desséchées et des éléments pauvres, mais venez et baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez en chemin. Car en lui nous avons la paix, dans le monde il y a de la tribulation, et aucune vraie paix ne se trouve ailleurs qu'en lui, il est le chemin de la paix. Heureux ceux qui le connaissent et demeurent en lui jusqu'à la fin, ils poseront la tête en paix, lorsque le temps ici-bas ne sera plus pour eux. John Gratton, quelques mots dans le véritable amour à tous ceux qui croient que Christ Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, est venu la seconde fois sans péché pour le salut. Ainsi Christ a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup. Et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra une seconde fois sans péché pour le salut. Hébreux 9, 28 Il est nécessaire que tous ceux qui croient les Saintes Écritures, qui rendent témoignage à Christ, l'attendent tel qu'il apparaît la seconde fois sans péché pour le salut, afin qu'ils le connaissent ainsi apparaissant en eux pour ôter tous leurs péchés, afin qu'étant lavés par lui et rendus purs, ils déparent en lui par en sa vie, en son esprit, en son amour, en sa lumière, en sa sagesse et en sa puissance, afin qu'ils sachent par expérience qu'il est en eux et en lui, et qu'ils soient véritablement faits nouvelles créatures, car si quel Dieu est fidèle, lui qui a promis, et beaucoup sont rendus participants de ces grandes et précieuses promesses, en Christ Jésus la semence, en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen à jamais. Et les promesses sont et seront accomplies pour ceux qui reçoivent Christ, dans son apparition la seconde fois, sans péché pour le salut, laquelle est en esprit par le Saint-Esprit, comme il l'a promis. C'est à tous ceux qui l'ont reçu que fut donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom. À de tels il dit, Celui qui est avec vous sera en vous, et sans lui nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons aucune force propre, rien du tout de bon, mais nous sommes par nature enfants de colère, tandis que nous vivons dans la convoitise de la chair, et avons ainsi besoin d'être délivrés. Mais il n'y a point de libérateur en dehors de Christ, point de chemin, point de vérité, point de vie, nul ne peut venir au Père que par lui, celui qui l'a, comme dit l'Écriture, a la vie, mais celui qui ne l'a pas n'a pas la vie. La loi ne donnait pas la vie, et l'Écriture non plus, par la lettre ou la simple lecture, ne donne pas la vie. Car bien qu'elle rende témoignage à celui qui est la vie, la lumière, la sagesse, la puissance, Dieu sur toutes choses, béni éternellement, pourtant elle ne peut donner la vie est en lui. Car comme au commencement toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait, ainsi nul n'est sanctifié ni rendu nouveau sinon par lui, et ceux qui sont sanctifiés par lui sont unis à lui. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il est la vraie vigne, la racine de la vie. Par lui les rois règnent et les princes décrètent la justice. Mais sans lui les hommes sont morts dans leurs offenses et leurs péchés, misérables coupables, en qui il n'y a point de santé, des plaies, des meurtrissures et des ulcères purulents de la tête aux pieds, jusqu'à ce qu'il nous guérisse et nous vivifie par son esprit en nous, qui est le Consolateur, qu'il envoie pour conduire dans toute vérité, et tous ceux qui sont conduits par lui sont les enfants de Dieu. Par lui nous pouvons appeler Dieu Père, car il est tout en tout pour les enfants de Dieu. Et l'apôtre dit, « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu, et encore. » Vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un prix, non avec des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais avec le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans tache ni défaut. Voici, dit Jean, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les disciples de Jean le virent, quittèrent Jean et suivirent Jésus-Christ, qui leur demanda qui ils cherchaient. Ils lui dirent, « Rabbi, où demeures-tu ? » Il dit, « Venez et voyez. » Et ils vinrent, virent où il demeurait, et restèrent avec lui ce jour-là. Cela est très précieux. Le voir et connaître son lieu de demeure, et demeurer avec lui durant le temps qui nous est donné pour vivre, que ce soit votre joie de demeurer avec lui tout votre temps, et de voir où il demeure. Cela est plus que d'entendre parler de lui de l'ouïe de l'oreille, le voir et l'entendre vous-même, et être instruit par lui. Oh. Il prend grand plaisir à ceux qui vendent tout, ou quittent tout pour le suivre, lui qui est l'agneau de Dieu plus grand que Jean. C'est lui, dit Jean, qui vient après moi, mais qui m'a été préféré car il était avant moi, et je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et demeurer sur lui comme une colombe, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. » Jean ne s'offensa pas de ce que ses disciples le quittèrent pour suivre Christ, mais il se réjouit d'entendre sa voix et de le voir manifester à Israël. C'est pourquoi, dit-il, « Je viens baptiser d'eau, mais il faut que je diminue et qu'il croisse, et de l'accroissement de son royaume et de son gouvernement il n'y aura point de fin. » Car les royaumes de ce monde deviendront les royaumes de Dieu et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ainsi soit-il, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. C'est celui que Jean vit, revêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom était appelé la parole de Dieu. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient. Que tous ceux qui sont sur la terre le suivent, l'écoutent et lui obéissent. Car Dieu parle aux hommes et en eux par lui, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Lui qui étant le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toute chose par la parole de sa puissance, après avoir accompli par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. C'est Christ le Fils de Dieu, la parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui était mort mais qui est vivant à nouveau. Mais toute chair est comme l'herbe, et la gloire de l'homme comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cessez donc de vous appuyer sur l'homme, dont le souffle est dans ses narines, car à quoi faut-il l'estimer ? Et il est dit encore, « En vain est le secours de l'homme. » Oh, souvenez-vous donc que Dieu parle maintenant par son Fils, qui a donné sa vie pour nous et a souffert, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et si jamais vous venez à Dieu, ce doit être par Jésus-Christ, le chemin nouveau et vivant. Il est le rocher des siècles, le fondement de nombreuses générations, le rejeton de David et aussi son Seigneur. C'est le fondement de Dieu pour les hommes, qui demeurent fermes, et le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Toute la maison ou église de Dieu, et chacun de ses membres, est bâti sur ce rocher et ce fondement, car nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. C'est le fondement du christianisme, ce qui fait de vrais chrétiens, ce que des éléments faibles et pauvres ne peuvent faire, car ils ne peuvent sanctifier les hommes, ni les faire nouvelles créatures. Il n'y a point de vrai chrétien qui ne soit en Christ et Christ en eux spirituellement, car il est le Seigneur venu du ciel, un esprit vivifiant, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, que les hommes vivent et marchent dans l'esprit de Christ. car tous les enfants de Dieu sont élus en lui et bénis en lui de toute bénédiction spirituelle, par lequel ils obtiennent l'adoption. Il est notre paix, le Prince de paix. Et jusqu'à ce que je l'ai connu en esprit, je n'ai jamais connu la vraie paix avec Dieu, ni la paix de la conscience. Nous ne pouvons être cohéritiers avec Christ et membres de l'Église qui est en Dieu, que lorsque nous venons à être assis ensemble dans les lieux célestes en Christ, et bien assemblés, devenons un saint temple pour le Seigneur, en qui vous êtes aussi édifiés ensemble pour être une demeure de Dieu par l'Esprit. Dieu est au milieu de cette maison, église ou assemblée, où qu'elle soit, dès lors qu'elle est rassemblée au nom de Christ, à qui tout pouvoir au ciel et sur la terre a été donné, et ceux qui le reçoivent maintenant dans leur cœur reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, étant nés de nouveau. Car ce qui est né de l'esprit est esprit, mais ce qui est né de la chair est chair. Celui qui est dans la chair ne peut plaire à Dieu, car ceux-là font ce qu'ils ne devraient pas faire, laissant ce qu'ils devraient faire, et sont de misérables coupables, en qui il n'y a point de santé. Mais c'est en vain qu'ils adorent Dieu, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes, suivant les rudiments, traditions et ordonnances des hommes, qui ne donnent aucune vie à leurs âmes, et étant des éléments pauvres, ne peuvent nourrir l'âme immortelle. Ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas, car toutes ces choses périssent par l'usage, n'étant pas selon Christ, car en lui est la vie, et il donne la vie à ceux qui le reçoivent, mais rien de terrestre ne peut donner la vie. Celui qui est de la terre est terrestre et parle de la terre. Mais celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Les hommes terrestres sont dans la sagesse d'en bas, qui est terrestre, sensuelle et diabolique, non pure, paisible, douce, facile à fléchir, pleine de justice, de bonté, de vérité et d'amour. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur d'Israël, à celui que l'homme méprise, à celui que la nation abhorre, à un serviteur des dominateurs. Des rois verront et se lèveront, des princes aussi se prosterneront, à cause du Seigneur qui est fidèle, du Saint d'Israël, et il te choisira. Et Ésaïe 49, 22-23, ainsi parle le Seigneur, « Voici je lèverai ma main vers les nations, et j'élèverai mon étendard vers les peuples, et des rois seront tes nourriciers, et leurs reines tes nourrices, et tu sauras que je suis le Seigneur, car ceux qui m'attendent ne seront pas confus. » Et Ésaïe 50, 10, « Qui parmi vous craint le Seigneur, qui obéit à la voix de son serviteur, qui marche dans les ténèbres et n'a point de lumière. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur et s'appuie sur son Dieu. » Et au chapitre 52, « Ô fille captive de Sion, vous vous êtes vendue pour rien, et vous serez rachetée sans argent. » Lisez le chapitre 55, 4-7 et voyez qui est donné comme témoin au peuple, comme guide et commandant des peuples, et cherchez le Seigneur pendant qu'il se peut trouver, invoquez-le tandis qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne au Seigneur qui aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Le Seigneur Dieu, qui rassemble les exilés d'Israël, dit « J'en rassemblerai encore d'autres auprès de lui, en plus de ceux qui sont rassemblés auprès de lui » Ésaïe 56, 8, 9. C'est Shiloh, le sauveur pacifique dont Jacob a prophétisé sur son lit de mort, lorsqu'il était près de sa fin, Gênes 49, 10. C'est celui dont parle le saint prophète Ésaïe au chapitre 53. Et c'est à lui que ce même prophète invite les hommes à venir, disant « Oh, vous tous qui avez soif, venez » Ésaïe 55. Ceux donc qui accueillent cette invitation et demeurent avec lui sont de cette Église que Dieu fera être une excellence éternelle, une joie de nombreuses générations, Ésaïe 75. Qu'est-ce donc? Ceux-ci sont rachetés de la chute, ceux-ci ont reçu l'esprit d'adoption et connaissent la grâce régnant en justice. Ceux-ci sont venus sur la montagne de la maison du Seigneur, en Christ, en qui nul ne fait de mal ni ne détruit. Ceux-ci savent que Jésus est le Seigneur, le roi des rois, le chef des princes. Ceux-ci sont ses brebis, entendent sa voix et le suivent. Ceux-ci n'établiront pas ceux qui ne savent rien, sinon ce qu'ils savent naturellement comme des bêtes brutes, et s'y corrompent, et ne connaissent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Mais ils sont tels que le prophète s'en plaint, disant « Ces sentinelles sont aveugles, elles sont toutes ignorantes, ce sont tous des chiens muets incapables d'aboyer. Oui, ce sont des chiens voraces qui ne peuvent jamais être rassasiés, et ce sont des bergers qui ne savent pas comprendre. Ils se tournent tous vers leur propre voie, chacun vers son gain de son côté. » La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur, et il n'y a aucune créature qui ne soit manifeste devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Ceux qui n'ont pas cette parole de Dieu à prêcher ne sont ni vivants ni puissants. Ceux à qui l'on met de la nourriture dans la bouche leur plaisent, mais contre ceux qui ne le font pas, ils préparent la guerre. Ils reçoivent de l'honneur les uns des autres, et comme les pharisiens d'autrefois, marchent en longues robes, aiment les premières places dans les synagogues et les premières places dans les festins, aiment les salutations sur les places publiques et être appelés maîtres. Ils viennent avec de bonnes paroles et de beaux discours, par lesquels ils séduisent les cœurs des simples. ils courent quand Dieu ne les envoie jamais. Christ parlant à de tels dit, « Le Père lui-même qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa forme, et sa parole ne demeure pas en vous, car vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi afin d'avoir la vie. » Jean 5, 37, 40. Lisez la suite, et voyez comment ceux-ci ressemblent à ceux-là, qui n'avaient pas l'amour de Dieu en eux, mais aimaient la louange des hommes, recevaient de l'honneur les uns des autres, et ne cherchaient pas l'honneur qui vient de Dieu seul. Mais Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, est venu la seconde fois savoir en esprit, et il nous dit tout ce que nous avons fait, comme il le fit à la femme au puits de Jacob, laquelle, lorsqu'elle l'entendit et crut en lui, alla dans la ville et leur dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas le Christ ?» Beaucoup de Samaritains de la ville crurent en lui, et le prièrent de demeurer avec eux, et il demeura avec eux 2 jours, et beaucoup entendirent et crurent à cause de ses propres paroles, disant, « Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que celui-ci est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » Il leur donna de voir, d'entendre, de croire et d'avoir la vie éternelle. Que les hommes regardent à lui, viennent à lui et apprennent de lui, heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent. « J'essaierai ta parole dans mon cœur, dit David, le Seigneur est ma lumière et mon salut. » Et il pria, disant, « Oh, envoie ta lumière et ta vérité. » Oh. Si tous nos rois et nos dirigeants avaient la pensée du roi David et le même esprit, lui qui disait, « Pourquoi les nations s'agitent-elles, et les peuples méditent-ils une chose vaine ? Les rois de la terre se dressent, et les princes se concertent contre le Seigneur et contre son oint. Soyez donc sages, ô roi. Recevez instruction, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez en chemin, quand sa colère s'enflamme un peu. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Oh, que les rois, les dirigeants et les grands hommes écoutent et entendent le roi des rois et seigneur des seigneurs, et se souviennent que ce sont les doux qui hériteront la terre, et que Dieu fait grâce aux humbles, mais il regarde de loin les orgueilleux. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Puisque vous êtes tous éclairés, tournez vos pensées vers la lumière, car il y a un esprit dans l'homme, et l'inspiration du Tout-Puissant leur donne l'intelligence. Il est dit, « Les grands hommes ne sont pas toujours sages, et les vieillards ne comprennent pas toujours ce qui est juste. Il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, car ils ont de grandes possessions sur la terre et de somptueux palais, et sont adorés et honorés comme des dieux, et les femmes cousent des coussins à leurs emmanchures, et des voiles sur leurs têtes. » Le prophète a dit, « Malheur aux femmes qui cousent des coussins à toutes les emmanchures, et font des voiles sur la tête de toute taille pour chasser les âmes. Chasserez-vous les âmes de mon peuple, et laisserez-vous vivre les âmes qui viennent à vous, et me profanerez-vous parmi mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, faisant mourir des âmes qui ne devraient pas mourir, et faisant vivre des âmes qui ne devraient pas vivre, en mentant à mon peuple qui écoute vos mensonges. Ce sont ceux qui disent aux gens qu'ils doivent vivre dans le péché toute leur vie, et leur apprennent à dire, ils s'égarent des voies de Dieu comme des brebis perdues, suivent les desseins de leur propre cœur, et sont de misérables coupables. Pourtant, s'ils mettent de la nourriture dans leur bouche, ils parleront de paix, mais sinon, ils prépareront la guerre contre eux. Ce sont les mercenaires du peuple aveugle, des guides aveugles qui conduisent des aveugles, et méprisent le vrai prophète, éteignent l'esprit, et parlent mal de la lumière qui brille dans les cœurs des hommes, pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu et de sa vérité, qui est le sanctificateur des hommes, et le chemin vers Dieu, et la vie de toute âme vivante. Car celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il est l'ancre de l'âme, sûr et ferme, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, a méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ces choses, Dieu les a fait connaître aux faibles de ce monde, qu'il a choisi pour confondre les forts, et Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages, des hommes sans instruction comme Pierre et Jean. Mais ils avaient été avec Jésus et avaient appris de lui, et avaient reçu les choses qui leur avaient été gratuitement données par Dieu. Les manifestations, révélations et opérations de l'Esprit, et sa consolation, leur étaient gratuitement accordées d'en haut. Ils ne reçurent pas la foi, la sagesse et la puissance de l'homme ni par l'homme, mais de Christ, en qui habite toute plénitude, et de sa plénitude, eux avec d'autres, ont reçu et grâce sur grâce. La loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Par grâce, ils furent faits ce qu'ils étaient. Ils crurent en la lumière et y marchèrent, et ne l'appelèrent pas une lumière naturelle, comme le font les marchands de Babylone. Christ dit, « Voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Christ apparaît une seconde fois à ceux qui l'attendent, Hébreux 9, 28, Veillez à ne pas refuser celui qui parle, remarquez, il parle maintenant en vous. Il n'est pas dit ici qu'il parlait, qu'il a parlé ou qu'il parlera, mais qu'il parle, écoutez-le maintenant car il parle du ciel. Tant qu'il est appelé aujourd'hui, écoutez-le, car la nuit vient, et les ténèbres du dehors seront la part de tous ceux qui rejettent un si grand salut, un si grand amour, une si grande miséricorde et bienveillance. Car Christ parle très clairement dans les hommes et aux faibles capacités et à l'intelligence des hommes, de sorte qu'il n'est pas besoin de dire « qui montera » pour nous l'amener. Mais l'onction qu'ils reçoivent enseigne toutes les choses nécessaires, de sorte qu'ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur enseigne, mais que, comme cette même onction leur enseigne toutes choses, voyez 1 Jean 2, 27. Cette onction est en eux. Oh, que les hommes entendent les paroles de ce Maître! Combien de fois a-t-il appelé par ses prophètes et ses apôtres, et les Écritures contiennent bien des appels à venir entendre ce que dit l'Esprit, et nul ne peut être sauvé, dans toutes les nations, sinon ceux qui marchent dans la lumière de l'agneau. Oh. Que les hommes considèrent, se détournent du mal, cessent de s'appuyer sur l'homme, et se rassemblent à Christ, la parole qui demeure à jamais, lui qui n'a jamais fait défaut aux prophètes ni aux apôtres, ni à aucun homme qui ait jamais cru en lui. Il est le rocher des siècles, la pierre éprouvée, élue et précieuse. Celui qui croit en lui ne sera jamais confondu. C'est le fondement de toutes les générations justes, qui les a soutenus dans toutes leurs souffrances, voyez et bonze. Tout pouvoir est à lui au ciel et sur la terre, et à tous ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce court témoignage, je l'ai eu à l'esprit depuis quelque temps, pour le laisser derrière moi, comme une invitation d'amour à venir à celui qui est gratuitement donné de Dieu à toute l'humanité et qui appelle tous à venir à lui. Ô vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte d'abondance. Et encore, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et Jean 4, 14. Quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Vous tous qui lisez ces lignes, je désire que vous suiviez le conseil de Dieu, et que vous sortiez de Babylone, et ne participiez pas à ses péchés. Elle est dans cette sagesse d'en bas, qui est terrestre, sensuelle et diabolique. Elle est pleine de sang, et elle est l'abomination de toute la terre, et ses plaies seront certainement répandues sur elle. Et ses grands et riches marchands participeront à ses plaies, et sa coupe d'or par laquelle elle les a enivrés, apparaîtra comme n'étant d'aucun profit pour aucune âme. Mais la sagesse d'en haut est d'abord pure, puis paisible, douce et facile à fléchir, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est la vraie sagesse céleste, écoutez sa voix, fil des hommes, et prenez son conseil, ses voix sont des voix agréables, et tous ses sentiers sont paix. John Gratton, une épître aux amis de Pennsylvanie. Très chers amis, Malon Stacy, John Wilford, George Wood, John Blunston, Francis Davenport, Samuel Jennings, Job Bunting, et tous les autres chers amis comme s'ils étaient nommés, qui vivent près de vous au-dedans ou au-dehors, mon amour sincère dans la vérité bénit vous salue tendrement tous, avec vos tendres et aimantes épouses et vos familles, respirant ardemment vers le Seigneur, la source des eaux vives pour vous, afin que vous soyez gardés et préservés vivants, fidèles et féconds dans la vérité bénie, en laquelle seules nos âmes sont rangées. Chers amis, le sentiment profond de l'état des choses depuis quelque temps, et qui est encore parmi vous, m'a beaucoup courbé devant le Seigneur en esprit, en secret, n'ayant personne pour soulager mon âme en deuil sinon lui seul, qui prend connaissance de tous nos soupirs et gémissements inexprimables. Et j'espère, dans sa grande miséricorde, son amour et sa compassion, que comme il nous a aidés auparavant, il paraîtra encore pour notre aide, notre préservation, notre réconfort et notre consolation, si nous veillons soigneusement à demeurer bas et au-dedans, étant humblement courbés devant lui, attendant sa pure apparition dans notre homme intérieur. Emmanuel, Dieu avec nous, est connu pour être admirable, conseiller, Dieu puissant et prince de paix, capable de déposséder l'homme de péché, qui s'oppose et voudrait s'élever au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Mais béni soit le Seigneur notre Dieu. Il nous a rendus capables de dire en vérité, « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde », de sorte que nous attestons vraie la parole de l'apôtre, « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste dans les hommes, car Dieu le leur manifeste ». C'est pourquoi, chers amis, gardez vos esprits tournés vers l'apparition de Dieu, qui est notre Sauveur, et il n'y en a point d'autre en dehors de lui. Et réjouissez-vous, et louez-le pour sa grande miséricorde envers nous, en se faisant connaître en nous. Et quant à ceux qui se glorifient de ce qu'ils savent de Dieu hors d'eux-mêmes, ayez compassion d'eux, priez pour eux, et prenez garde de vous laisser enlacer ou prendre au piège par eux. Car selon la teneur des Saintes Écritures, nous devons être reconnaissants pour ce que nous connaissons de Dieu en nous, si ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste en nous. Alors nous devons aussi considérer que le Tout-Puissant est libre et dispense la connaissance comme il lui plaît, et manifeste ce qu'il veut et autant qu'il lui plaît aux enfants des hommes. Et s'il lui plaît de manifester davantage à un autre qu'à moi, je dois m'en contenter et faire bon usage de ce que j'ai, et ne pas envier mon frère d'avoir plus, ni l'exalter, ni mépriser mon frère qui a moins que moi, mais considérer que nul homme n'a rien qu'il ne reçoive d'en haut, et que c'est Dieu qui fait que les hommes diffèrent. Et celui qui fait fructifier ce qui est donné gratuitement recevra un accroissement, car à celui qui a, il sera donné, dit Christ, et il aura l'abondance. Mes chers amis, regardons au-dedans, et attendons ce qu'il plaît au Seigneur de manifester, et prenons conseil de lui, et demeurons en lui et dans son conseil, et ne nous efforçons en rien sans lui, mais veillons à faire toutes choses dans l'esprit doux et paisible de l'agneau, car l'agneau aura la victoire, oui, il a et il règne, gloire à Dieu à jamais. Ainsi Adam déchu, le moi corrompu, avec toutes leurs connaissances, leurs arts, leurs langues, leurs études, leur foi et leur commerce, doivent tous être abaissés et réduits à rien, car le Seigneur seul est et sera exalté au-dessus de tout. Chers amis, puisqu'il est dit que l'agneau aura la victoire, cela s'observe et se voit clairement en tout lieu sa vie, sa lumière, son amour, sa douceur, sa patience, sa bonté, sa longanimité, sa pureté, sa sagesse, sa vérité sont manifestées et gardées. La victoire est obtenue par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et qui en sauve tous ceux qui le reçoivent véritablement, et leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et d'obtenir conquête et victoire sur le malin. Oh, c'est pourquoi, amis et frères, demeurez en lui, et veillez à vivre dans une connaissance sensible qu'il demeure en vous, comme vous pouvez vous rappeler qu'il pria son Père afin que nous soyons en lui et lui en nous. Cela est précieux, Christ en nous, l'espérance de la gloire, le grand mystère de Dieu. Tenez cela fermement, cachez-le dans vos cœurs, qu'il soit la tête en vous, régnant secrètement dans vos âmes, rendez-lui obéissance et vivez dans un sentiment sensible de sa vie, de sa lumière, de sa joie, de son réconfort. Amis, demeurez ici et vous saurez assez, vous ne manquerez de rien si vous jouissez de cela. Mais quand bien même vous auriez toute connaissance sans cela, toutes les langues, les mystères, oui, la foi pour transporter des montagnes, et que vous n'ayez pas cet amour, tout ne vaut rien. C'est celui dont les lèvres gardent la vraie connaissance, il en sait le chemin de Dieu, en vérité, jamais homme ne put parler comme lui. En l'écoutant, chers amis, il nous garde dans la communion, l'unité et la communion fraternelle avec Dieu et les uns avec les autres, et dans une paix qui surpasse l'intelligence des sages de ce monde. C'est la meilleure connaissance. Connaître Dieu comme notre Dieu, Christ Jésus comme notre Seigneur et Maître, notre Chef et Législateur, et Conseiller admirable. Oh ! Que cela soit notre connaissance, et attendons, veillons et prions pour y croître, et fuyons la contention, la crêle, les disputes vaines et les arguments frivoles, car la victoire est à l'agneau, et tous vaincront qui demeurent en lui. Veillez donc et priez en son nom, et souffrez avec lui. Ses souffrances sont très grandes, oui, merveilleuses en ce jour, et beaucoup souffrent avec lui, oui, et régneront aussi avec lui à jamais, ceux-là savent que leur victoire vient par les souffrances. Voici l'agneau de Dieu, connaissez sa nature divine dans votre homme intérieur, et soyez rassemblés là en lui, et revêtez-le, et soyez revêtus de lui, afin qu'il vous rende beau de sa propre beauté. Ainsi vous connaîtrez l'armure de la lumière, oui, l'armure tout entière. Bien que maintes flèches acérées et dards pénétrants aient été tirées contre vous, elle demeure pourtant une armure éprouvée. Gardez-la, chers amis. Ne dites, ne faites, ne pensez rien de contraire à la volonté divine, mais apprenez dans le silence et le recueillement. Veillez à connaître ce que le Seigneur dit, car il accomplit une œuvre que nul autre ne peut accomplir, et nul des fils des hommes ne peut faire ce qu'il fait. Qu'il ait donc cette prééminence qui lui est due, et qu'il soit tout en tout, alors il y aura fin aux querelles, et la paix sur la terre, la bonne volonté envers tous les hommes s'en suivra, et gloire à Dieu au plus haut des cieux. À mesure que nous en faisons l'expérience, nous sommes rachetés par lui hors de la terre et hors de ses maux, étant des disciples de l'agneau partout où il va. Et quoi que ce soit qui s'élève contre ne prévaudra pas, car aucune arme forgée contre de tels ne prospérera, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre eux. Le Seigneur est connu en ce jour par un reste, béni soit son nom, comme étant à la fois Seigneur et Christ, oui, notre rocher sûr de sécurité, de force, de puissance, de vie, de justice, de sanctification et de salut. Oui, tout ce que nous sommes pour Dieu, nous le sommes en lui, et en lui seul. Chers amis, demeurez étroitement unis à lui en esprit. Son tabernacle est ici avec nous, et nous trouvons qu'il prend plaisir au fil des hommes, et à faire sa demeure dans les parties habitables de la terre. C'est pourquoi, chers amis, entrez dans le temple, et demeurez-y avec lui, et regardez à lui, et si l'on dit qu'un autre voit plus de lui que vous n'en voyez, gardez le silence et ne regardez pas à l'homme, mais prenez garde, car Christ a dit, plusieurs vous diront, voici le Christ est ici, ou le voilà là, ne les croyez pas. Mais veillez et priez, et que rien ne vous sépare de lui, et pour ce qu'il vous montre clairement du Père, soyez-en reconnaissant. La jouissance est la meilleure connaissance, et tient l'âme basse, humble, douce, patiente, bénigne, sainte, inoffensive, tranquille et paisible. Tandis que la connaissance qui est sans jouissance enfle, élève, n'est ni douce, ni sainte, ni inoffensive, mais nuisible et dangereuse, emportant l'esprit loin de Dieu, comme le corbeau qui sortit de l'arche de Noé et ne revint plus. Qu'est l'homme hors de Christ Jésus, le chemin, la vérité et la vie, la puissance de Dieu, en vérité rien, pire que rien, mais en lui l'homme en vient de nouveau à se tenir dans l'image de Dieu. Il est le don ineffable, demeurez fermes en lui, conduisez-vous en homme, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Souvenez-vous de ses nobles actes, il rendit fort les faibles qui avaient foi en lui. Bien qu'ils fussent faibles, il éteignit la violence du feu, ferma la gueule des lions, mit en fuite des armées d'étrangers. Oui, la mort et le tombeau furent vaincus par lui qui est le vainqueur, et qui donne la victoire à tous ses vrais disciples et suivants, et les rend capables de vaincre, et ses promesses pour cela sont grandes et précieuses. Avec l'esprit comme suit, à celui qui vaincra, dit-il, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu, il ne souffrira point de la seconde mort, à celui-là je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur cette pierre un nom nouveau écrit que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Il aura pouvoir sur les nations et il aura l'étoile du matin. Il sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesse. Je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, il héritera toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils, dit le Seigneur. Eux qui ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, ils sont passés par de grandes tribulations, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent nuit et jour dans son temple, et celui qui est assis sur le trône demeure au milieu d'eux, ils n'auront plus faim ni soif. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux eaux vives, ils ont le nom de leur Père écrit sur leur front. Ils ont de la patience, gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et lui a vaincu, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Heureux ceux qui font ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Mes chers amis, quel doux encouragement se trouve ici. Faisons-en notre affaire de connaître ces choses expérimentalement, selon nos mesures, et demeurons dans l'amour de Dieu, et en lui vivons et aimons-nous les uns les autres. Cela nous amènera à désirer ardemment et à travailler pour le bien et le bien-être les uns des autres et de toute l'humanité. Nous ne pouvons être véritablement religieux en dehors de cet amour, c'est en lui que nous nous sentons les uns les autres comme de vrais membres du corps, dont Christ est la tête, c'est en lui que nous aimons comme des frères et sommes prêts à nous laver les pieds les uns aux autres. Mais si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il est son frère, il est menteur. Nous tenons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, a dit Christ notre Seigneur. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est un signe certain d'un vrai disciple. Mais de faux apôtres ne peuvent aimer les vrais. Amis, demeurez dans la demeure où Dieu vous a rassemblés, à savoir l'esprit de douceur, d'amour, de bonté, de patience, de pureté, de vérité, souffrez-y paisiblement, et avec lui, car il vaincra tout, et alors vous, à mesure que vous y demeurerez, vous vaincrez par lui. Je suis heureux que vous n'ayez pas paru imprimé, et très affligé que j'ai, K et G, H, avec d'autres, les faits, ce qui a grandement donné occasion aux ennemis de la bienheureuse vérité d'en dire du mal. Je désire que vous ne vous mêliez pas de cette affaire, à moins que le Seigneur ne vous y contraigne par son Saint-Esprit, mais laissez votre cause à Dieu, il la plaidera. Et si, en quelques paroles, ou autrement, vous avez mal agi, reconnaissez votre faute, et cherchez à préserver l'honneur de celui-ci, de sa vérité et de son nom, et ne cherchez rien pour vous-même, ni ne vous crêlez ensemble, car vous êtes frères, si vous êtes tel que vous le professez. Mais soyez doux, patients, et attendez Dieu, et quoi qu'il vous ordonne de faire, faites-le, et demeurez dans le sentiment de l'amour de Dieu, cela vous rendra fécond devant lui et devant les hommes, et demeurez dans la foi vivante, qui n'est pas sans bonnes œuvres, mais qui agit par l'amour, à la louange de l'auteur et du consommateur de cette foi, et votre maître sera avec vous, et vous remplira de sa bonté miséricordieuse, de sa sagesse et de sa force. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, assurément personne. Ne regardez donc pas au dehors, chers amis, vers l'arbre de la connaissance, quoiqu'il paraisse agréable à l'œil qui n'est pas simple, mais convoite d'être quelque chose de plus que ce que Dieu en fait, et cherche sa propre élévation et son propre honneur. Mais que votre soin soit de connaître un être véritablement gardé dans l'alliance avec le Seigneur. Chers amis, laissez ceux qui pensent s'envoler jusqu'au troisième ciel, et se lancer dans les choses élevées, les grands spectacles et les profonds mystères, aimez-les pourtant, et recherchez la paix autant qu'il dépend de vous. Et si certains s'offensent de vous, parce que vous ne voyez pas ce qu'ils prétendent voir, supportez-le patiemment, car il ne devrait pas être ainsi. L'apôtre Paul n'agissait pas ainsi, mais se faisait tout à tous, cherchant à gagner tous à Jésus-Christ. Il en est de même de tous ceux qui demeurent dans le même esprit jusqu'à ce jour. Ils se rassemblent à lui, à savoir au Christ, le don de Dieu à toute l'humanité, et en tout, selon leur mesure, que le Seigneur en remplisse beaucoup et double nos parts, si telle est sa bienheureuse volonté. Voilà notre trésor véritable, et par lui nous sommes conduits et guidés dans toute vérité, et rendus capables de croire toutes les choses écrites dans les saintes écritures de vérité, concernant notre Seigneur Jésus-Christ, et de le connaître comme l'auteur de notre foi, et non l'homme. Aucun homme ne peut donner une foi qui soit vraie et vivante, nul homme n'a de pouvoir sur elle. Pourtant les hommes peuvent être libres de rendre compte de leur foi, si le Seigneur le requiert, mais prenez garde à ceux qui se jettent dans des questions inutiles, des disputes douteuses et des arguments vains, dans leur propre volonté et leur propre sagesse. Souvenez-vous que notre Seigneur Christ fut parfois silencieux devant de tels. Ainsi, si quelque ami de Dieu est poussé à relater ce que le Seigneur, par sa seule grâce gratuite, lui a donné de croire, qu'il le fasse dans l'obéissance au Seigneur, et cela est bien. Mais si quelque ami ou des amis ne sont pas encore parvenus à croire, en tout point ce qu'ils croient, qu'ils ne s'en offensent pas parce qu'ils sont faibles, mais qu'ils les exhortent comme Paul le fit autrefois envers certains, que selon ce qu'ils ont atteint, ils marchent par la même règle et la même pensée, et attendent Dieu pour être portés de foi en foi, de grâce en grâce, dans et par l'Esprit du Seigneur, non par l'homme, car il ne peut ajouter une coudée à sa stature par tout ce qu'il peut faire. Il n'est pas chrétien de s'offenser de ses fautes. Et les pères tendres prennent soin d'administrer à leurs enfants une nourriture nécessaire qui soit nourrissante et tende à leur croissance et à leur affermissement, et c'est leur joie de les voir prospérer et parvenir à être de jeunes hommes, ayant la parole de Dieu demeurant en eux et demeurant abondamment et richement en eux. Que nous travaillons tous véritablement à cela, mais s'offenser de parce qu'ils ne voient pas, ne savent pas ou ne croient pas tout ce qu'un père croit, et les renier pour cela, oh cela est contre nature, sans bonté, inhumain, assurément donc ce n'est pas chrétien. Ainsi donc, mes chers amis, demeurez humbles et habitez dans l'esprit doux de l'agneau, qui a profondément souffert pour nous, a passé par-dessus bien des faiblesses, et nous a aidés à avoir du collier, et nous a donné de voir les choses qui servent à notre paix, nous ouvrant des paraboles. Restons proches de lui, et alors par lui nous serons rendus aptes et pourvus pour toute bonne parole et toute bonne œuvre, à sa gloire, sa louange et son renom à jamais. Amen. Comme mon amour coule secrètement vers vous, depuis l'exercice que mon âme a eu pour vous, vous m'êtes chers et proches. Je serais heureux de vous voir et d'être avec vous quelque temps, selon la volonté de Dieu, mais je pense que je ne reverrai plus jamais vos visages, c'est-à-dire dans le corps. Mais j'ai espérance dans le Seigneur de vous rencontrer dans le royaume de gloire de notre Père, et de demeurer avec vous pour toujours. Cela me console bien des fois, lorsque je pense à vous, quoi que je puisse souhaiter, si tel plaisait au Seigneur, vous voir soit ici soit là. Chers amis, priez pour moi, et pour tout le troupeau de Dieu, partout, car nous ne savons pas encore ce que nous aurons à affronter. Nous devons être éprouvés et mis à l'épreuve de bien des manières, et ceux qui sont approuvés seront manifestés, et ceux qui ne le sont pas seront connus. Oh, que nous puissions être désapprouvés pour toujours! Je vous confie tous très chèrement au Seigneur, sachant qu'il est capable de vous garder de tomber, et je vous salue tous très affectueusement, tant ceux que je connais de visage que ceux que je ne connais pas, qui sont de vrais amis, et demeurent en ce en quoi ils ne peuvent être autrement. Je prie Dieu d'être avec vous tous et avec tous les siens partout, et de nous garder tous par sa propre puissance ajustée et préparée pour lui-même, et en toute chose de nous rendre capables d'être féconds en toute manière à sa louange, sa gloire, son honneur et son renom, et pour la joie, le réconfort et la consolation éternelle de nos âmes, ainsi soit-il, ô Seigneur. Car toi seul es capable d'y dire Amen en vérité. Ainsi prie votre cher ami et frère dans le service et les souffrances de la bienheureuse vérité, qui vit et demeure à jamais. John Gratton écrit à Moniach au 7e mois 1693, copie d'une lettre envoyée à un grand personnage après que j'eus eu une discussion avec lui dans sa propre maison, au 10e mois 1694. Ami bien-aimé, c'est dans un amour véritable que je t'écris ces lignes. C'est pour moi un sujet de peine que toi, étant magistrat, et sachant combien les hommes ont été lésés en ces jours par les serments, et que cela t'a peiné de ne pouvoir soulager tes voisins tranquilles et paisibles, tu plaides pourtant pour les serments, alors qu'ils sont si clairement et pleinement interdits, tant par notre Seigneur Christ que par l'apôtre Jacques, et que le oui et le non sont établis à la place d'un serment disant « ce qu'on y ajoute vient du mal ». La loi disait « tu ne jureras point faussement », ainsi la loi interdit le faux serment, mais Jésus-Christ interdit tout serment, et il nous est commandé de l'écouter. Le Christ n'est-il pas plus grand que Moïse, et au-dessus des anges et des hommes, oui, alors assurément nous devons obéir à ses commandements. Tout pouvoir n'est-il pas à lui, dans le ciel et sur la terre? Alors les puissances de la terre ne doivent-elles pas lui obéir? Ne doit-il pas régner, celui à qui le droit appartient? Y a-t-il, dans toutes les saintes écritures, un commandement de jurer depuis que Christ a dit « ne jurez point du tout » Il est clair que le Christ était avant la loi, ou avant le péché et la transgression, à cause de quoi la loi fut ajoutée jusqu'à ce que Christ, la semence, vînt. Mais il est venu, et tous ceux qui le reçoivent reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne doivent-ils pas être crus sans serment au commencement? Il n'en était pas ainsi. Les enfants de Dieu sont des hommes vrais, leur oui est oui, ils disent la vérité à leur prochain, mais les fils de Bélial sont des hommes faux, dont on ne peut croire les serments. Le Christ a dit, « Ne jurez point, mais vous, magistrats, vous dites jurez. Mais si nous devons obéir, c'est à vous d'en juger. » Encore, Christ a dit, « Je suis la lumière du monde. » Si cela est, alors cette lumière est divine, et doit être crue et suivie. Encore, Christ a dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Le Christ commande-t-il des impossibilités? Lisez Éphésiens 4, 3-14, où l'apôtre parle du service pour lequel certains hommes furent dotés, c'est-à-dire, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit, ceux-là n'ont qu'un seul Seigneur, et ne servent pas deux maîtres, ceux-là sont purs, car rien d'impur n'est en Christ. Il leur est dit de demeurer en lui, et il a dit, « Tout sarment en moi qui porte du fruit, mon Père l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. » Ainsi il est clair que des hommes peuvent être réellement, parfaitement, sincèrement enfants ou sarments, et cependant croître de force en force, de foi en foi dans et par l'Esprit du Seigneur, et pourtant être des enfants parfaits, et croître pour devenir de jeunes hommes, et vaincre le méchant, et continuer de croître pour devenir des pères, et poursuivre encore le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi donc, autant que nous sommes parfaits, ayons cette pensée. Telle est la perfection que nous n'entendons pas une perfection telle que rien ne puisse y être ajouté. Il serait vain pour nous de poursuivre et de travailler à atteindre une place céleste en Jésus-Christ, si elle n'est pas atteignable, et si c'est une place céleste, elle l'est parfaitement, car le ciel n'admet aucun mélange. Si nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes parfaitement, car nous ne pouvons être à la fois enfants de Dieu et du diable. De même, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre corrompu de bons fruits. Pourtant les bons arbres croissent à mesure qu'ils reçoivent du ministère de la racine, et c'est la racine qui les porte, non eux la racine. Ainsi les enfants sont de vrais enfants, des enfants parfaits, participant de la même nature que les jeunes hommes et les anciens, mais la racine, le Christ, est tout en tout. Je n'attribue rien à l'homme en tout cela, car Dieu est le grand vigneron, qui œuvre en nous et pour nous, car il sème sa semence en tout terrain, et donne de ses talents à tous. Aucun homme n'a rien de bon, sinon ce qu'il reçoit d'en haut, car tout don bon et parfait vient de là, et la gloire de tout appartient à celui qui est Dieu sur tous, béni au siècle des siècles. Amen. Ceci est écrit dans un amour véritable, avec le désir d'être mieux compris, car nos principes sont chrétiens, saints, et s'accordent avec la Sainte Écriture, mais le monde nous hait, nous fait tort, et nous calomnie, nous et nos principes aussi. Je souhaite que nous et nos principes soyons mieux connus de tous les hommes, car nous sommes haïs sans juste cause. Je prie Dieu de pardonner à ceux qui agissent ainsi, et je suis ton véritable ami en sincérité. John Gratton, le Christ est tout, et en tout, ou un véritable témoignage concernant Jésus-Christ, le don insondable de Dieu, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Christ est venu dans le monde sous la forme d'un serviteur, et allait de lieu en lieu faisant le bien, et guérissant toutes sortes de maladies. Pourtant le monde ne l'a pas connu, bien que le monde ait été fait par lui. Il prêcha l'Évangile, après avoir été baptisé par Jean dans le Jourdain, et le Saint-Esprit descendit du ciel sur lui comme une colombe, et le Seigneur, par une voix venue du ciel, dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Il fut conduit au désert et tenté par Satan, mais il le vainquit de sorte que celui-ci s'éloigna de lui, et des anges vinrent et le servirent. Ayant ainsi écrasé la tête du serpent, il continua victorieux et pour vaincre, et prêcha l'évangile du royaume de Dieu, disant « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à l'évangile. » Il allait dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume, et guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités parmi le peuple. On lui amenait des malades atteints de diverses maladies, des démoniaques, des lunatiques, et il les guérissait. Il prêcha une doctrine merveilleuse, bonne et sainte, comme il apparaît par son sermon sur la montagne, où son conseil était doux, précieux et profitable à tous pour le mettre en pratique. Il leur enseigna comment vivre, comment prier et plaire à Dieu en toutes choses, de sorte que le peuple était étonné de sa doctrine. Il montra un amour infini tant pour le corps que pour l'âme. Il fit voir les aveugles, entendre les sourds, parler les muets, marcher les boiteux. Il purifia les lépreux, guérit les paralytiques, chassa des démons, ressuscita les morts, et eut compassion des pires des hommes, détournant publicains et prostituées de leur mauvaise voie. Il changea l'eau en vin et nourrit plusieurs milliers de personnes avec quelques pains et poissons. Il prononça des paraboles admirables. Sa doctrine était plus excellente que ce que l'homme peut comprendre par toute sa propre sagesse. Il montra un grand amour et une grande pitié pour toutes sortes de personnes, et une grande aversion pour tout mal, hypocrisie et péché. Pourtant, il encouragea ceux qui se repentaient et s'en détournaient, et venaient à lui pour être guéris, et lui obéissaient. Aucun de ne fut rejeté par lui. Mais que dirais-je, qui peut déclarer le bien qu'il a fait? Il est impossible de le déclarer, sa bonté surpasse l'entendement de tout le genre humain. Il accomplit la loi de Moïse jusqu'au moindre iota, et fut si saint, sans malice, juste, équitable et bon, qu'aucun homme ne put l'accuser de péché. Il était et est la fin de la loi pour la justice de quiconque croit. Il a souffert pour nous, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a donné sa vie en rançon pour tous et a goûté la mort pour chaque homme. Il s'est offert à Dieu comme un agneau sans tache. Il a répandu son âme jusqu'à la mort et s'est fait offrande pour le péché, et a été un sacrifice propitiatoire, notre Pâque, immolé pour nous. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes, et par une seule offrande il a rendu parfaits à jamais ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui le reçoivent dans l'amour de Dieu, il agit en eux et pour eux, les rend nouvelles créatures, et vivifie ceux qui étaient morts dans les offenses et les péchés. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, dit-il, quand même il serait mort, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il est notre artisan de paix, le prince de la paix, celui qui nous réconcilie avec Dieu, la parole de réconciliation. Il est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Celui qui croit en lui ne demeurera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Il est notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption, notre vie, notre force et notre voie vers Dieu, notre tout en tout. Ô les bienfaits, avantages, faveurs, bénédictions et miséricordes qui résultent de la venue du Christ dans le monde, de sa vie et de sa mort en lui et pour lui, achevant l'œuvre de notre salut, sans aucun mérite de l'humanité, car tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Il n'y en avait aucun dans cet état qui fût juste, non, pas un, il n'y en avait aucun qui fît le bien, ils étaient tous devenus inutiles, le chemin de la paix, ils ne le connaissaient pas, la crainte de Dieu n'était point devant leurs yeux, et pourtant, lorsque nous étions sans force, en temps voulu, Christ est mort pour les impies. Dieu recommande son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici l'amour, non que nous l'ayons aimé, mais que Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que, par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour chaque homme. L'amour de Christ nous presse parce que nous jugeons ainsi. Si un seul est mort pour tous, alors tous étaient morts, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et ressuscité. Ainsi toutes choses sont de Dieu, et rien de l'homme dans cette grande œuvre du salut, mais tout de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ, et nous a donné le ministère de la réconciliation, à savoir que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, et qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il apparaît très pleinement par les saintes Écritures qu'après que le Christ eut abondamment fait du bien au monde pendant qu'il y vivait, il a aussi, par sa mort, fait à toute l'humanité un bien inexprimable, oui, au-delà de l'entendement de l'homme. Comment à toute l'humanité? Oui, aux ennemis, aux pécheurs, aux impies, comme cela est clair en Romains 5-6, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison réconciliés serons-nous sauvés par sa vie. Ainsi maintenant nous nous réjouissons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons reçu l'expiation. Voici la bonne volonté envers les hommes, oui envers les ennemis. Voici un grand avantage, pour tous les hommes, de la venue, des souffrances et de la mort de Jésus-Christ. Premièrement, le sacrifice est offert, et offert agréablement, un sacrifice propitiatoire une fois pour toutes. Deuxièmement, l'expiation est accomplie, et une offrande de paix, et cela gratuitement par Jésus-Christ. Troisièmement, la loi et les prophètes, et le baptême de Jean sont accomplis, de sorte que le Christ est la fin de la loi pour la justice de tous ceux qui croient. Ainsi, là où Christ règne, le royaume est venu, la volonté divine est faite sur la terre, et la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Quatrièmement, le mur de séparation est abattu entre juifs et gentils, et ceux qui autrefois étaient éloignés sont rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements contenue dans des ordonnances, afin de créer en lui-même des deux un seul homme nouveau en faisant la paix, et afin de réconcilier les deux avec Dieu en un seul corps par sa croix, c'est-à-dire juif et grec, ayant tué l'inimitié par elle. Et il est venu annoncer la paix, de sorte que dans le Christ Jésus, ni la circoncision n'a de valeur, ni l'incirconcision, mais une nouvelle créature. Et tous ceux qui marchent selon cette règle, paix et miséricorde sur eux, et sur l'Israël de Dieu. En lui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être une propitiation, par la foi en son sang, pour montrer sa justice, à cause du pardon des péchés passés, dans la patience de Dieu, pour montrer, dis-je, en ce temps sa justice, afin qu'il soit juste et justifiant celui qui croit en Jésus, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Cinquièmement, lorsqu'il est monté en haut, il a emmené captive la captivité et a fait des dons aux hommes, oui, même aux rebelles, selon la mesure du don de Christ, et ceux qui gardent l'unité de l'esprit dans le lien de la paix sont un seul corps et un seul esprit. Ils ont un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, par tous et en vous tous, à lui la gloire. Il y a diversité de dons, dit l'apôtre, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tout. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité de tous. Même apôtre nous dit à quoi ces dons furent donnés, c'est-à-dire, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, le chef de qui tout le corps, bien coordonné et uni par tous les liens qui le servent, selon l'action efficace dans la mesure de chaque partie, produit la croissance du corps, pour s'édifier lui-même. De tout cela, il est clair que le Saint-Esprit ou l'Esprit est répandu ou donné à tous, à chaque homme, à toute chair selon Joël. Le Christ est donné à tous, le soleil de justice est levé et brille sur tous, éclaire tout homme venant dans le monde. Car en lui est la vie, et la vie est la lumière des hommes, lui qui est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Oui, il brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas compris. Grâce de Dieu qui apporte le salut apparaît à tous les hommes, et ceux qui reçoivent cette grâce et s'en instruisent, elle leur enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent siècle, en attendant l'accomplissement bienheureux de notre espérance, à savoir l'apparition glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Il est le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, qu'il a préparé devant la face de tous les peuples, comme Siméon l'a dit, une lumière pour éclairer les gentils et la gloire de son peuple Israël. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ici le salut est offert à tous, juifs ou gentils. Dieu ne fait point exception de personne, mais dans toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. C'est une bonne nouvelle, de joyeuses nouvelles à tout le peuple. Faut-il la publier? Oui, Christ a dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature ». Et ici Christ, l'agneau de Dieu, qui a goûté la mort pour chaque homme, montre son amour universel, et il est venu afin qu'ils aient la vie, et a prêché lui-même, la lumière du monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a en lui de la bonne volonté envers tous les hommes, et auprès de lui une miséricorde pour tous les hommes, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Car tous sont à lui, tant par création que par acquisition, et il a mis le secours sur un homme puissant, qui est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, et ceux qui viennent, il ne les rejettera point. Ainsi, c'est la faute de l'homme s'il ne veut pas venir à Christ, qui est venu pour donner la vie. Le Seigneur appelle, disant, « Inclinez votre oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. » Et au grand jour de la fête, Jésus se tint debout et s'écria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, mais il disait cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Voilà un grand encouragement, en beaucoup d'amour et de miséricorde, de bonne volonté et de bonté paternelle. Nul n'est exclu ici, puisque ceux qui n'ont pas d'argent sont invités. C'est assurément une bonne nouvelle pour les pauvres, à qui l'Évangile est prêché, et sans exception de personne pour tous les peuples. Et quiconque le veut peut venir, car le don est donné à tous, non seulement offert, mais donné librement. Car à l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. L'eau de la vie est l'effusion de l'Esprit de Dieu, car Dieu est la source, et a répandu son Esprit sur toute chair, et a donné son Fils au monde, qui invite tous à venir à lui et à boire. Nul ne doit craindre aucun manque en cette source, car c'est une source qu'on ne peut jamais épuiser. Elle est maintenant décelée, et les assoiffés sont invités à venir boire gratuitement, et ses bien-aimés à boire abondamment. Mangez, ô amis, buvez, oui, buvez abondamment, ô bien-aimés. Et le Christ invite ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui et à prendre son joug sur eux, car il est aisé et son fardeau est léger. Et il a dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Et il est clair, selon l'Écriture sainte, que la perdition de l'homme vient de lui-même. Mais vous ne voulez pas venir à moi, dit Christ, afin d'avoir la vie. Il fut méprisé et rejeté des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, les hommes lui cachaient leur visage, et ne voyaient en lui ni beauté ni éclat. Ceux qui le suivent doivent se renoncer eux-mêmes, prendre chaque jour leur croix, et souffrir avec lui, s'ils doivent jamais régner avec lui, mais celui qui le renie devant les hommes, lui aussi le reniera devant son Père qui est dans les cieux. Que tous ceux qui lisent les saintes Écritures, qui rendent témoignage au Christ, viennent à lui, croient en lui, l'écoutent et s'instruisent de lui, et lui obéissent, lui qui est Seigneur et Roi sur tous, et juge des vivants et des morts, afin qu'il ait la vie. Quand le Christ vient et agit par son esprit dans les hommes, et qu'ils le sentent alors, et pas avant, ils connaissent le mystère caché depuis les siècles, mais maintenant manifesté, qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire, la richesse des gentils, l'étoile de Jacob, l'étoile brillante du matin. Il est le soleil de justice, l'arbre de vie, la vraie vigne qui permet à chaque sarment de porter du fruit, à mesure qu'il demeure en lui. Et ceux qui participent à sa vie, à sa puissance et à son esprit, il est en eux, et eux en lui, et ils ne marchent pas comme les autres gentils dans la vanité de leur esprit. Venez, amis, l'avez-vous entendu et avez-vous été instruits par lui, ou êtes-vous devenus insensibles? Si vous ne sentez, ne goûtez et ne saisissez ces choses, et n'entendez pas le Christ en vous, comme il l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent, vous ne connaissez pas la vérité, ni n'êtes sanctifiés, ou rendus libres par elles. » Et alors peu importe ce que vous professez des lèvres. Car celui qui est en Christ est une nouvelle créature, et en alliance avec Dieu demeure en Christ et Christ en lui. Oh donc saisissez et retenez la vie éternelle, et si Christ est en vous, vous trouverez la capacité de venir à Dieu par lui, car il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Il est l'unique chose nécessaire, la perle de grand prix. Si jamais vous le trouvez, ce doit être en vous, donnant la vie à votre âme, l'amour dans votre cœur, une sagesse au-delà de celle de l'homme, et un pouvoir sur tous vos ennemis, oui sur la mort, l'enfer et le tombeau, le monde, la chair et le diable. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre est en lui, nul autre ne peut vous en donner. Ainsi laissez-vous persuader de tourner vos regards vers lui, et d'attendre son apparition en vous, sinon votre foi est morte, et vous ne sentez la vie en rien. Venez, goûtez et voyez, dit David, que le Seigneur est bon, trouvez-le et vous trouverez tout. Comme ils étaient heureux, ceux qui trouvèrent le Christ. André dit à Simon, « Nous avons trouvé le Messie », et Philippe dit à Nathanaël, « Nous l'avons trouvé, celui de qui Moïse et les prophètes ont écrit. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Et ainsi te dis-je, à toi qui es prompt à demander si quelque chose de bon peut se trouver en moi, rentre en toi et vois, là en toi se trouve ce qui te reprend pour le mal, n'est-ce pas bon ? Oh, alors cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, et l'homme injuste ses pensées, et qu'il se tourne vers le Seigneur, et il aura pitié de lui, et vers notre Dieu car il pardonnera abondamment. Le Christ pria pour les siens à son Père disant, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. » La vérité au-dedans change le cœur, et vivifie l'âme, car c'est un esprit vivifiant. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. C'est lui qui amène à Dieu, c'est l'époux de l'âme, le bien-aimé de l'Église, et l'Église est à lui. C'est la gloire des vivants, les vivants se glorifient dans le Seigneur, toutes les autres choses leur sont comme balayures et fumier en comparaison de Christ. L'apôtre parlant à l'Église a dit, « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi le Seigneur est la part de son peuple, et la part du Seigneur est son peuple. Jacob est le lot de son héritage, à qui il a dit, « Ne crains point, car je suis avec toi, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. » Jean. Si les hommes se confiaient en Dieu, lui obéissaient et le suivaient comme de chers enfants, gardant leur esprit fixé sur le Seigneur, afin d'être conservés dans une paix parfaite et marchant en lui, ils marchent dans la lumière, car Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. Et ceux qui marchent dans la lumière ont communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, les purifie de tout péché et les rend libres, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Il ressort clairement de ce qui a été dit que Christ est tout, en tous ses peuples, à savoir leur sagesse, force, puissance, justice, lumière, vie, paix, sanctification, justification, consolation et salut, avec lui nous avons toutes choses, sans lui nous ne pouvons rien faire, en lui habite toute plénitude. Quoique riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté nous fussions riches. Et celui qui est héritier de toutes choses a été une fois offert pour porter les péchés de plusieurs, et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra une seconde fois sans péché pour le salut. Bienheureux ceux qui aiment son apparition. Ils sont prêts à dire « Viens Seigneur Jésus, viens promptement, lève-toi au Seigneur et que tes ennemis soient dispersés, hâte-toi et viens, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Au Seigneur je laisse tout, et dans un amour véritable, je suis ami de tous les hommes et serviteur pour l'amour de la vérité. » John Gratton fin, autre témoignage concernant John Gratton. Le but de ce site web est de montrer comment être délivré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.